Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le bilan des attaques simultanées de près de 10 villages hier dans la chefferie de Banyarikilo en Ituri est revu à la hausse. On parle ce samedi de 62 morts, dont 14 miliciens de la Codeco et 23 blessés. Dans la région, un calme précaire règne ce samedi grâce à l'intervention des FRDC qui ont repoussé l'ennemi, affirment des sources sur place. Suspension depuis hier de toutes les activités de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières. Une mesure saluée par Maître Soudi Alima Sikimputu, expert en décentralisation et qui demande aux membres de cette Assemblée provinciale de privilégier les intérêts de la population. Freddy Nguomoja est l'invité de ce journal. Il est le directeur de l'Office congolais de contrôle, OCC Ituri. Bonsoir à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Au Nord Kivu, les combattants du M23 ont systématiquement pillé hier, vendredi, au moins 3 villages du groupement Bukombo, chefferie de Bwito, c'est dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs sources dans la zone affirment que ces hommes ont emporté plusieurs vaches, des chèvres, des moutons, de la volaille, ainsi que des biens de ménage des habitants. Même les petits commerces des habitants n'ont pas été épargnés. Des notables contactés dans la zone demandent au gouvernement d'intervenir pour que la paix reviennent dans cette zone. Le point avec Blaise Ndokala.
Parmi les villages pillés, Soni et Kamena Kaserero. Ici, les rebelles du M23 ont réussi à emporter près de 100 vaches, 200 moutons et chèvres, des poules et des dindons de la population. Selon des témoins sur place, les hommes du M23 sont arrivés dans ces villages pour rechercher les membres d'une milice locale avec lesquels ils s'étaient affrontés la veille. Ne les ayant pas trouvés, ils ont tiré des coups de feu en l'air pour faire fuir la population avant de piller le village. En début de semaine, ces rebelles ont pillé le village de Mulimbi dans les groupements Tongo, rappelle un autre notable. Il dit regretter de voir comment les efforts de plusieurs années de travail des habitants sont ainsi anéantis par ces rebelles qui imposent à la population non seulement l'insécurité, mais également la pauvreté. Un acteur de la société civile dans la zone demande aux autorités congolaises de trouver les moyens de régler durablement la question sécuritaire dans cette partie du pays. Car, précise-t-il, même si la population se relève difficilement après un conflit, ces efforts sont toujours anéantis lorsqu'un nouveau conflit surgit.
Toujours à propos du M23, le député national Jado Mangwengwe salue la décision du chef de l'État congolais de ne pas négocier avec ce groupe armé. Pour rappel, Félix-Antoine Tshisekedi l'a encore dit mercredi à Kinshasa au cours de la conférence de presse conjointe avec le président de la Confédération helvétique. Jado Mangwengwe, élu des Beni au Nord Kivu, dit ne pas comprendre la léthargie de la communauté internationale qui n'a toujours pas sanctionné le Rwanda. Jado Mangwengwe a été joint par Alain Hiron.
Parfaitement d'accord avec la position du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, de ne jamais négocier et dialoguer avec le M23. Sont ces négociations dialogues qui ont permis au Rwanda de nous infiltrer, mais aussi de toujours créer des alibis pour renouveler ses agressions contre notre pays. Jamais je n'ai compris aussi pourquoi et comment, quels que soient les rapports expliquant des violations graves des droits humains par le CNDP, M23, entre guillemets le Rwanda, sur des populations congolaises de l'Est, des rapports déposés non seulement par le gouvernement congolais, mais aussi par plusieurs ONG nationales et internationales auprès de l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine, il n'y a toujours pas d'interpellation, moins encore des sanctions contre le Rwanda. Pourquoi cette attitude de deux poids, deux mesures? C'est depuis 1997 qu'avaient commencé ces agressions rwandaises et sur le sol congolais, à la base d'ailleurs de plusieurs Congolais tués. Nous comptons plus de 10 millions de Congolais qui ont perdu la vie, sans compter les femmes et filles violées, et une destruction incommensurable des économies, non seulement des populations de l'Est, mais aussi de la RDC en tant qu'État.
Situation sécuritaire encore, cette fois dans le territoire de Basoko, province de la Tchopo. Deux personnes ont été tuées, dont un enfant de 4 ans et 3 policiers sont portés disparus. Cela s'est passé au village de Kaka, où les habitants du village voisin de Bolila ont mené des actes de représailles hier vendredi après le décès de leur proche, une femme, dans ce village Kaka. Le commandant de la police nationale congolaise déclare qu'un renfort des éléments de la police a été envoyé sur les lieux pour la sécurité des populations locales. Le point avec Jacques.
Ces incidents font suite au décès brusque d'une femme à la pêche jeudi dernier au village Bolila, rapporte des témoins. Alertée, la famille de la défunte a organisé des représailles contre le village voisin du mari, le village Kaka. Selon le commandant du bataillon de la police de Basoko, des maisons ont été pillées et incendiées, contraignant ainsi la population à se réfugier dans la brousse. Une personne a été tuée et un enfant de 4 ans abandonné dans ce désordre, décapité. Le major Dido Lilé dit avoir dépêché 4 policiers sur place pour s'enquérir de la situation et en même temps remettre de l'ordre. 3 d'entre eux ont été blessés à la machette et une arme ravie avant de les amener à une destination inconnue. Cependant, le 4e a réussi à s'échapper. La même source rapporte qu'un renfort de policiers vient d'être envoyé sur les lieux pour sécuriser la population. Car, dit-il, le chef de secteur va entamer la sensibilisation pour que cette dernière regagne le village. Et l'on connaîtra alors, en ces moments-là, le sort des 3 policiers disparus, souligne le commandant Dido Lileko, Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province voisine l'Ituri, le chef de la police de la MONUSCO en RDC, qui est en mission dans cette province, a lancé ce samedi le projet de construction du centre de commandement opérationnel de la police congolaise au siège de cette institution à Bounia. Selon le général Modi Bereté, cette action s'inscrit dans le cadre des multiples interventions de la MONUSCO pour améliorer les conditions de travail de la PNC. C'est pour permettre de réaliser de manière professionnelle et efficace sa mission de sécurisation de la population. Un lot de matériels électroniques a été également remis à la police au cours de cette cérémonie. Isaac Raymond.
La MONUSCO apporte un appui multiforme à la police congolaise, notamment en Ituri. Le numéro 1 de la police en RDC a rappelé que pour l'année fiscale 2022-2023, au moins 6 projets de formation sont déjà initiés sur le maintien de l'ordre public, les violences sexuelles et la police des mines, mais aussi la construction de certaines infrastructures dont les blocs sanitaires au profit du personnel féminin dans 3 commissariats de Bounia et la dotation en plusieurs matériels et équipements. Il a ajouté que la pose de la première pierre de ces bâtiments intervient dans cette série d'actions et des activités de consolidation des acquis et des soutiens durables à la PNC avant les retraits de la MONUSCO qui est dans une phase de transition. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail de la police pour l'accomplissement de sa mission de sécuriser la population. Le général Modi Bereté.
Le nouveau bâtiment sera un lieu de travail où les policiers pourront s'épanouir et contribuer à la réalisation de leur mission de sécurisation de la population. Il reflétera l'engagement de la PNC à viser l'excellence ainsi que sa détermination à fournir des services de qualité à la population itourienne dans son ensemble.
De son côté, le commandant provincial de la police en Ituri a remercié la MONUSCO pour son soutien permanent pour l'intérêt de la population congolaise. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous vous le disions dans le sommaire de ce journal, suspension depuis hier vendredi des activités de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a agi pour maintenir l'ordre public. Cette réaction est de Maître Soudi Alima Sikimputu, expert en décentralisation. Dans une interview accordée ce samedi à Radio Okapi, il appelle le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale du Sud Kivu à privilégier les intérêts de la population qui est la plus grande perdante dans ce conflit. Il explique aussi qu'en cas de crise persistante, la loi donne au président de la République le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale. On écoute Maître Soudi Alima Sikimputu joint par Alain Irung.
D'abord, pour l'assemblée provinciale, c'est qu'il faudra qu'ils évitent une bipolarité au sein de l'assemblée provinciale. Ils doivent parler le même langage pour l'intérêt de la province du Sud-Kivu. C'est parmi les provinces qui ont souffert de la mauvaise gouvernance. Il faudra que d'abord le législatif provincial, l'organe délibérant de l'Assemblée provinciale, puisse parler le même langage, éviter cette bipolarité qui frise une manipulation politicienne des politiciens de Kinshasa et malheureusement au détriment des intérêts de la population. Du côté de l'exécutif provincial, quand on gère bien la chose publique pour l'intérêt de la population, souvent on ne peut pas faire l'objet d'émotions. Parce que quand vous lisez ces différentes motions qui sont faites, il y a des arguments qui sont évoqués pour arriver à une motion. Mais effectivement, pour les deux institutions, il y a l'intérêt général qu'ils doivent mettre à l'avant-plan. Parce que aussi, nous assistons des fois à des assemblées provinciales, et ça s'est déjà passé à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le même problème qu'on a toujours reproché, de croire qu'eux aussi sont devenus exécutifs, ils doivent se partager l'argent du contribuable qui est géré dans les caisses de la province. Et en cas de refus du gouverneur de province, il doit nécessairement faire l'objet d'une motion de défiance ou de censure.
Restons à Kinshasa. La synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC a tenu son assemblée générale hier dans la salle de congrès du ministère des Affaires étrangères sous le thème « La réduction du train de vie de l'État pour une redistribution équitable du revenu national aux agents et fonctionnaires de l'État ». Les participants à cette assemblée générale des organisations syndicales et sociales, notamment des médecins, des enseignants, des fonctionnaires de l'État, de l'EPST, des ONG de développement et de la société civile, ont formulé des recommandations au gouvernement pour qu'enfin les fonctionnaires de l'État cessent de vivre dans la précarité caractérisée par la modicité de leurs revenus. Junior Gradel Ika.
La salle de congrès du ministère des Affaires étrangères archicombe. Les organisations syndicales de tous bords réunies appellent sans condition à la réduction du train des vies de l'État pour une redistribution équitable du revenu national aux agents et fonctionnaires de l'État qui travaillent dans des conditions inhumaines. Le refrain, un slogan hors pair qui traduit leur ras-le-bol.
Si tu parles, tu meurs. Et si tu t'étais, tu meurs. Alors,
tu parles, tu meurs, tu ne parles pas, tu meurs, alors parle et meurs. Jean Bosco Pouna, président du syndicat des enseignants des écoles catholiques, reste intransigeant quant à leur demande.
Aujourd'hui, nous sommes venus échanger avec les agents et fonctionnaires de l'État pour que chaque agent comprenne ses droits et ses devoirs et que nous puissions être en mesure de pouvoir revendiquer auprès de l'employeur. Nous pensons obtenir gain de cause parce que le gouvernement, il écoute. Si vous avez des structures syndicales fortes, eh bien, ça rend même le gouvernement fort. Donc, le gouvernement n'a pas intérêt à fragiliser les représentants des travailleurs.
Au finish, quelques recommandations ont été formulées, entre autres, amorcer des réformes administratives courageuses, réduire la taille du gouvernement, du parlement, des assemblées provinciales, de gouvernements provinciaux, de représentants diplomatiques et des entreprises publiques.
Clôture hier vendredi de la formation sur les auto-évaluations institutionnelles et de l'assurance qualité des institutions supérieures de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette formation de 5 jours a été organisée par l'Agence nationale d'assurance qualité ANAC de l'enseignement supérieur et universitaire à l'intention des présidents des conférences des institutions supérieures et universitaires du Grand Kassai. D'après le secrétaire exécutif de l'ANAC, le but est de pousser chaque institution supérieure à corriger les erreurs et à améliorer la qualité de l'enseignement. Le professeur Constant Kiama, secrétaire exécutif national de l'ANAC, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
L'ANAC-SU a procédé au lancement officiel de l'auto-évaluation institutionnelle dans les établissements de la République démocratique du Congo à partir du pôle Grand Kassai. Et l'ANAC-SU a également procédé à la formation à l'assurance qualité. C'est à la demande d'abord de l'État congolais. Nous devons d'abord nous regarder dans un miroir. Nous devons procéder à l'auto-évaluation de nos établissements. C'est le conseil scientifique qui approuve les programmes et qui produit même les référentiels. Et en fait, c'est un ensemble de normes, des standards que nos établissements doivent nécessairement donc suivre. Ces standards regroupent un peu les domaines. C'est le domaine de la gouvernance, de la formation, le domaine de la politique de la recherche, de la vie à l'école, à l'institut, à l'université. Et au niveau de chaque domaine, il y a des champs, il y a des différences, des critères. Et les établissements vont donner également une cote. Ce qui est également intéressant, notre référentiel, nous l'avons digitalisé, numérisé, de telle sorte que les établissements, moyennant même un téléphone Android, un ordinateur connecté à l'Internet, ils peuvent aussi procéder à s'auto-évaluer, c'est-à-dire que vous avez identifié vos forces, vos faiblesses, vos menaces, vos opportunités. À partir de ce point fort, ces faiblesses, vous allez donc vous améliorer.
Lancement ce samedi à Matadi des travaux préliminaires de la construction de la route nationale numéro 14, tronçon compris entre la frontière congolo-angolaise de Noki et le rond-point Kinkanda. C'est le commissaire général aux infrastructures et travaux publics et reconstruction du Congo central qui a lancé ces travaux en présence du maire de la ville de Matadi. D'après Léopold Mbadou, ces travaux préliminaires sont entamés avant le lancement des travaux de bétonnage afin d'augmenter la praticabilité de cette voie fortement dégradée. Nana plus Rich Mambo, reportage.
Ces travaux préliminaires sur la route nationale numéro 14, un ouf de soulagement pour les usagers et les habitants de ces coins. Témoignage.
Nous sommes très contents pour le début des travaux. La route était dans un état d'impraticabilité. Nous avons vu des accidents ici. Nous avons vu comment la population souffrait pour les poussières. Et maintenant, ils ont commencé les travaux. C'est une très bonne chose. Tel qu'on a commencé, nous souhaitons qu'on puisse les achever.
Ces travaux, selon le maître d'ouvrage, l'entreprise Jingjiang Construite, consiste à l'ouverture et à la construction des ouvrages d'art, au rechargement de la latérite sur la chaussée ainsi qu'au compactage. Pour le bon déroulement de ces travaux, le commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction appelle les uns et les autres à la collaboration. Léopold Mbadou.
On sera obligé de fermer la route. Tout ce que nous demandons à la population, qu'elle puisse faire preuve de patience et de collaboration avec l'entreprise Jingjiang qui est sur le terrain. Nous sommes en train d'améliorer la praticabilité de cet axe routier d'importance pour la ville de Matadi.
Notons que ces travaux préliminaires sur cette route longue de 4 km sont financés par le gouvernement central. Matadi, Nana Plirish Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Trois civils ont été tués ce samedi au Soudan où la rivalité entre les deux généraux aux commandes depuis le putsch de 2021 a dégénéré en combats de rue, raids aériens et menaces par médias interposés. Déployés dans Khartoum depuis le matin, les forces de soutien rapide FSR, des milliers d'ex-miliciens de la guerre du Darfour devenus supplétifs de l'armée, ont dit avoir pris l'aéroport international et le palais présidentiel. Les FSR appellent la population et les militaires à se rallier à elle et à se retourner contre l'armée. L'armée de son côté dément la prise de l'aéroport mais assure que les FSR s'y sont infiltrés et ont incendié des avions civils dont un de la Saudi Airlines. Selon un premier bilan de cette journée, bilan dressé par le syndicat officiel des médecins, trois civils ont été tués, deux à Khartoum et un à El Obeid. Notez que le différend entre les deux hommes forts du Soudan porte sur l'avenir des paramilitaires. L'armée ne refuse pas leur intégration aux troupes régulière, mais elle veut imposer ses conditions d'admission et limiter dans le temps leur incorporation. Le général Daglo, lui, veut une inclusion large et surtout sa place au sein de l'état-major.
L'invité.
L'agence de l'Office congolais de contrôle, OCC Ituri, est érigée en direction provinciale par la hiérarchie de cette entreprise publique. Cette décision a été prise après une réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue en septembre 2022. Par la même décision, les anciennes sections de l'OCC Darou et de Mahagi sont devenues des agences. Qu'est-ce que ce changement de statut de l'OCC va apporter dans le fonctionnement de cette entreprise publique en Ituri? Quel sera l'impact de cette décision pour le développement de cette province? On écoute Freddy Nguo Moja, directeur de l'Office congolais de contrôle en Ituri. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Directeur Freddy Nguo Moja, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a concouru à cette élection de l'agence de l'OCC Ituri en direction provinciale?
L'OCC Ituri, qui hier était une agence, aujourd'hui c'est devenu une direction provinciale. C'est la volonté de la hiérarchie. Et la raison qui a milité à ce que l'agence soit élevée au niveau de la direction, il y a d'abord sur le plan de l'objet social de l'office, qui est le contrôle. On a trouvé que l'OCC, agence de Bounia, se comporte très bien. Donc le contrôle s'est fait comme il se doit, conformément aux lois de la République, conformément aux différentes instructions, conformément même aux normes, que ce soit les normes internationales, que ce soit les normes nationales, même régionales. Et ça a donné comme résultat la production de l'agence et correspond aux assignations que nous donne la direction générale. Donc nous produisons conformément aux recommandations de la direction et à la satisfaction de la direction générale. Ça, c'est un point qui a milité à ce que cette agence soit élevée au rang de la direction. Et sur le plan des infrastructures, l'agence a construit des bâtiments imposants, modernes et bien équipés, même dans les fins fonds de la province de l'Ituri.
Quels sont les défis qui vous attendent aujourd'hui?
Et nous devons toujours travailler très fort, malgré l'insécurité qui sévit dans notre province de l'Ituri, malgré les états de route dont les autorités militaires qui sont des gouverneurs se battent jour et nuit pour essayer quand même d'arranger ces routes. L'OCC a l'obligation vraiment de travailler conformément aux normes, conformément aux instructions. La production soit encore plus élevée par rapport à ce que nous avons comme aujourd'hui comme production. Et nous avons aussi la mission de protéger notre population population. Nous savons que nos frontières sont poreuses, il y a beaucoup de choses qui entrent frauduleusement, mais nous faisons quand même un effort pour que les gens reviennent à la raison, qui passe par deux voies indiquées.
Alors, monsieur le directeur, quel sera l'impact de cette décision de la hiérarchie pour la province de l'Ituri? Cela va-t-il contribuer à la maximisation des recettes, l'augmentation des effectifs des agents ou encore le développement de cette province de manière générale?
Justement, il y aura un impact parce que nous étions une agence, aujourd'hui nous sommes devenus une direction. Donc la structure sera revue à la dimension d'une direction. Nous aurons des divisions, et il y aura encore beaucoup d'autres services. Cela va entraîner d'abord la promotion de certaines personnes, c'est tous ceux qui ont contribué à l'élévation de cette agence en direction. Évidemment, il y aura aussi besoin en personnel. Quand il y aura besoin en personnel, certainement, il y aura quelques cas d'engagement qui peut s'opérer ici à Ituri. Et cela va essayer de diminuer un peu les chômages dans notre province. Et nous continuons à être bénéficiaires de l'encadrement par les autorités de la province. Chaque fois qu'il y a un problème, ils n'hésitent pas à venir en aide à l'OCC. Ils portent à cœur ce service.
Quel sera maintenant l'impact de cette décision de la hiérarchie? Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, si cette division provinciale de l'OCC est déjà mise en place, les opérateurs économiques seront aussi bénéficiaires de cette décision?
Oui, les opérateurs économiques qui sont nos partenaires, ils sont toujours bénéficiaires des services de l'OCC. D'une manière ou d'une autre, nous les avons toujours accompagnés. Et en devenant une direction, les opérateurs économiques seront encore plus bénéficiaires. Certaines matières qui se traitaient au niveau de Kisangani, puisqu'on était dans la direction orientale, et ces matières-là seront traitées directement ici au niveau de Bounia, puisque nous devenons déjà une direction.
Le service de l'OCC au niveau de Harumagi est régi aujourd'hui à des agences. Comment ça va se passer concrètement avec la direction provinciale ici?
Oui, avec la nouvelle structure où nous sommes devenus une direction provinciale, la section de Mahagi est devenue un détachement, tandis que la section d'Aru est devenue également un détachement. Le détachement dépend directement de la direction provinciale. Donc le travail va se faire toujours comme ça s'est toujours fait, mais on a élevé aussi ces entités-là en détachement. Donc des détachements, c'est presque équivalent au service. Au lieu qu'il soit des sections, ce sera comme des services.
Qu'en est-il de la section de Kasseni dans le territoire du Rumu?
Oui, la section de Kasseni demeure toujours section. Il faut qu'il puisse fournir encore des efforts dans le cadre de la production.
Directeur Freddy Ngomodja, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Et cet entretien qui met fin à ce journal, la grande édition du soir sur Radio Okapi, place à la suite de l'émission Métissage.